cette conférence. Donc tout ce que vous allez dire à partir de maintenant pourra être retenu contre vous. Et pour le moment, vous n'avez pas le droit de parler. Je vous conseille vivement de fermer vos micros, sinon je le ferai autoritairement.
Mais il va couper.
Voilà. Et donc, je laisse la parole à Pierre Thomas. Pierre, à toi.
Eh bien, bonjour et merci. Donc, on a une bonne heure et demie, ça dépend peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, on verra, à parler d'un problème qui turlupine l'humanité depuis très longtemps, c'est l'origine de la vie. Il y a 36 000 façons d'aborder le problème de l'origine de la vie. Pour les scientifiques, il y en a deux principales, vues par un biologiste, vues par un géologue. On pourrait rajouter, vues par un historien des croyances plus ou moins religieuses, comment les Égyptiens, etc. Et moi, je vais simplement prendre le regard du géologue. Vous verrez, il y a 5 parties dans mon exposé. Il y en a deux. Trois, je ne me rappelle plus, sur lequel je ne peux pas dire grand-chose parce qu'il n'y a que les biologistes qui pourraient parler, ce que je ne suis pas. L'origine de la vie. Alors, je le dis tout de suite, ne me demandez pas de définir la vie. Je vais prendre ça au sens normal du terme. La vie, c'est à notre sens ce qui est vivant. Alors, ça va de la bactérie au séquoia géant, en passant par Macron. Tout ça, c'est de la vie. Les problèmes de frontières, on ne va pas aborder les problèmes de frontières parce qu'on n'a qu'une heure et demie. Il y a le problème également, et les virus. En tant que géologue, on n'a jamais trouvé un seul fossile de virus, donc je ne pourrais pas dire grand-chose sur les virus. Et contrairement aux hommes politiques, le scientifique, quand il ne sait pas, ben il ne parle pas. Donc, on va parler de l'origine de la vie avec le regard d'un géologue. Alors avant, parce que vous êtes une société de lecture, quand je dis avant, c'est disons avant le 19e siècle, pour le problème de l'origine de la vie, on cherchait à répondre à ce problème dans des livres. Alors il y avait 36 livres, le livre des morts égyptiens, etc. Et pour nous, qui sommes une civilisation dite du livre, avec un L majuscule, on prenait ça dans la Genèse, qui est commune aux trois religions monothéisme, par ordre alphabétique, le christianisme, l'islam et le judaïsme. Alors, je vous montre une très très belle Bible auvergnate, parce que je suis auvergnat, qui date de la fin du XIIe siècle, la Bible de Souvigny, et je vous montre ici un détail des cinquième et sixième jours, où Dieu fait les oiseaux et les poissons, et là, il fait les bestiaux. C'est une classification qui vaut ce qu'elle vaut. Le géologue dit refaire le même jour les oiseaux et les poissons, ça va pas. Enfin, la Bible n'est pas un livre d'histoire. Alors, les géologues étudient la vie, pas trop ancienne, avec des fossiles. Quand on remonte dans les premiers temps, on verra, les fossiles deviennent de plus en plus rares et on les cherchera. Mais enfin, disons, depuis 500 millions d'années, c'est assez facile, en se promenant bêtement, de trouver plein de fossiles. Alors, je vais vous montrer quelques fossiles. Ça n'aide pas au problème de l'origine de la vie, mais c'est tellement beau. Alors, ici, vous avez une plage anglaise. Et chaque rond que vous voyez sur cette plage anglaise, c'est des ammonites. Et à Lyon, hein, les ammonites ne manquent pas. Toutes les escaliers des vieilles maisons ont des ammonites. Alors, par exemple, vous avez une ammonite ici, vous avez le détail là. Donc, c'est avec des fossiles que le géologue s'occupe de la vie ancienne. Alors, la fossilisation peut fossiliser un peu n'importe quoi. Ici, vous avez des troncs d'arbres qui sont fossiles. Ils n'ont que 225 millions d'années. Là, vous avez 4 fossiles pour montrer la variété de ce qu'on peut fossiliser. Un petit dinosaure. Alors ça, c'est mon marteau, et derrière, c'est mon papier peint. Parce que le dinosaure en question, je peux peut-être en tournant vous le montrer, vous voyez, il est au peu près au milieu du champ. J'ai 5 dinosaures chez moi, et là, ce ne sont que des moulages, mais enfin bon, c'est des grandeurs nature, donc des dinosaures. Ici, vous avez des étoiles de mer, des ophiures plus exactement, en pyrite. Là, vous avez une superbe ammonite qui a gardé sa nacre. Là, vous avez une superbe libellule. On va zoomer sur la libellule. C'est pour vous montrer qu'avec des fossiles, qui a quand même 150 millions d'années, on peut voir des détails d'une finesse exemplaire. Vous voyez toutes les nervures de l'aile de libellule. Beaucoup de gens ne savent pas qu'on peut, avec des fossiles, voir des choses extraordinaires. Là, vous avez donc une trilobite ou un trilobite. Je ne connais plus le genre du trilobite. Pareil, je pourrais vous le montrer, il est là. Et si vous regardez bien, il a des yeux. Si vous regardez bien les yeux, c'est des yeux à facettes. C'est normal. Voici des yeux trilobites qui ont quand même 400 et quelques millions d'années. Et là, c'est des yeux d'une mouche quelconque. Trilobites et mouches sont les arthropodes. Ils ont les mêmes yeux à facettes. Là, vous avez une fleur qui a 60 millions d'années, qui vient d'Auvergne aussi, avec des étamines. Là, vous avez des amphibiens fossiles qui ont 600 millions d'années. Là, vous avez une bactérie fossile, quelques microns, qui a 850 millions d'années. Alors, les fossiles, c'est toujours pour se faire plaisir et montrer des belles choses, c'est forcément une image de mort. Si on voit un fossile, c'est que la bête ou la plante est morte. Alors, c'est, des fois, c'est une image de mort, mais on voit un peu la vie. Là, vous avez la fossile d'une limule, c'est un espèce d'arthropode qui vivait il y a 150 millions d'années. Il marchait, ça vit encore, hein, pas la même espèce, mais presque. Il marchait sur un fond boueux, il a laissé ses traces. Puis là, il y a les affres de l'agonie, comme ça. Il est un peu vieux et il est venu mourir ici. C'est triste. Hein. Alors, ça peut être une double image de mort. Là, vous avez un gros poisson, dont vous avez le nom ici, qui a dû sauter en dehors de l'eau pour attraper un ptérosaure. Les ptérosaures, c'est ces reptiles volants. Alors voilà donc un poisson en train de gober un ptérosaure. C'est une pratique courante chez les poissons actuels, non pas de gober des ptérosaures, parce qu'il n'y en a plus, mais de sauter pour attraper des oiseaux. Voici un poisson qui saute pour attraper un oiseau. Et ben c'est ce qui s'est passé il y a 200 millions d'années peut-être, mais il a dû se planter un os dans la gorge, ce poisson, il n'a pas pu dégager son ptérosaure, ça s'est infecté et ils sont morts tous les deux. Voilà donc un détail de la gueule. Regardez, il a l'air méchant, ce poisson, avec son œil. Et le ptérosaure. Et c'est même une triple image de mort, parce que si on regarde bien ici, il y a le jabot, si on peut appeler ça le jabot du ptérosaure. Et dans le jabot du ptérosaure, on voit des arêtes ici et une colonne vertébrale de poisson. C'est-à-dire que le gros poisson a mangé un ptérosaure qui avait lui-même mangé un petit poisson. Vous avez une chaîne alimentaire, trois étapes de chaîne alimentaire conservées. Alors, c'est une très belle image de vie. Là, vous avez des langoustes qui font la queue leuleuse. Souvent, les langoustes migrent, elles se déplacent en convoi. Et là, vous avez à gauche un convoi de trilobites. Alors, vous connaissez tous ma préemption à parler de sexe. Et vous avez ici un accouplement d'insectes fossilisés dans l'ambre. Là, c'est un petit morceau d'ambre avec plein d'insectes fossiles. Vous voyez la taille. Alors, celle-là, elle n'est pas bien vieille. Elle fait que 5 millions d'années. Mais là, c'est de l'ambre de la Baltique, 45 millions d'années, et vous avez deux insectes morts en état d'épectase, hein, comme le président Félix Faure ou le cardinal Danielou, morts pendant l'axe, quand même une belle mort. Et là, vous avez deux tortues, pareil, morts, deux tortues aquatiques, morts pendant la reproduction. Alors, quand il y a accouplement, souvent, chez certains animaux, il y a gestation, et voici un fossile de jument qui contient son fœtus, une jument gravide. Et ça, nous qui sommes lyonnais, on peut aller voir ça en allant visiter un musée en Ardèche où on voit des fossiles extraordinaires, dont une jument gravide. Alors, une fois qu'on a été fécondé, eh ben, faut pondre ou accoucher. Là, vous avez la fossile d'un moustique, une moustique qui pond. Et là, vous avez un fossile extraordinaire, c'est un ichthyosaure qui accouche. C'est un reptile qui met les petits directement sous forme gravide, comme les vipères, qui bat des petits vipéraux. Là, vous avez un ichthyosaure qui accouche. Tout ça pour dire que le géologue, il a du matériel à sa disposition pour remonter dans le temps. Alors, avec tous ces fossiles, on peut faire des arbres qu'on appelle phylogénétiques. Vous avez le temps, ça c'est vieux, ça c'est là-haut, c'est assez jeune. Vous avez, après les fossiles, un ancêtre, vous voyez une diversification, puis de temps en temps, il y a une crise. Alors là, 95% des ammonoïdés sont morts, mais les 5% qui ont resté ont continué à se développer. Deuxième crise, la majorité des ammonoïdés sont morts, mais il en est resté. Ceux qui sont restés sont développés. Troisième crise, presque tout le monde meurt, mais pas tout le monde. Ceux qui ne sont pas morts se développent. Et là, il y a quatrième crise, et pour les ammonoïdés, c'est définitif. Il y a 66 millions d'années, aucun ammonoïdé n'a survécu. Donc, pour chaque grand groupe d'êtres vivants, on peut faire des arbres généalogiques. Et remonter dans le temps. Alors, Si on prend les êtres complexes, pluricellulaires, les animaux pluricellulaires comme nous, les végétaux pluricellulaires comme le platane de la rue d'à côté, on trouve des fossiles de pluricellulaires jusque vers 2 milliards d'années, pas millions, mais milliards, 2000 millions d'années. Alors, je vous montre, c'est des êtres qui sont difficiles à interpréter. Là, vous avez Gripania, vous avez les tailles, ça c'est mon doigt qui vous donne l'échelle. Là, vous avez des choses découvertes au Gabon il n'y a pas très longtemps, il y a 11 ans. Pareil, vous voyez la taille, c'est probablement des métazoaires et c'est ce qu'on connaît de plus vieux comme êtres pluricellulaires. Tout ce qu'on connaît avant, c'est des êtres monocellulaires. Et ces êtres pluricellulaires, ça se discute beaucoup. Il y a des gens qui disent que ce n'est pas des êtres pluricellulaires, mais des colonies de bactéries. Maintenant, le problème est à peu près tranché. Le débat penche vers métazoaires. Alors ça, c'est les fossiles qu'on voit. Et les fossiles qu'on ne voit pas, parce que c'est des fossiles chimiques. Par exemple, il y a un groupe de végétaux qui sont les conifères, les gynkoales et les mousses, au sens très large, qui contiennent dans leur viande, si je peux dire, dans leur tissu, des molécules que les autres végétaux n'ont pas. C'est des cadinoles, des cadinènes, c'est pas grave. Quand on chauffe, on comprime tout ça pour en faire de la roche, tout ça devient du cadalène. C'est une molécule dont vous avez ici la formule. Et le cadalène, d'après les chimistes, la seule façon de le faire, c'est de prendre ces molécules-là et de les chauffer. Si vous prenez des plantes comme un platane qui n'a pas ces molécules-là, si vous chauffez, vous ne faites pas de cadalène. Donc, si vous trouvez du cadalène dans les roches, vous postulez, parce que jusqu'à preuve du contraire, c'est qu'il y avait soit des gynkoales, soit des coniférales, soit des bryophytes. Donc, avec tous ces fossiles morphologiques ou chimiques, on peut construire un message de fossilisation. Donc, c'est le temps. Je rappelle que la Terre a 4,5 milliards d'années. Les fossiles nous disent il y avait des êtres monocellulaires jusque vers 2 milliards d'années. Ensuite, ils deviennent pluricellulaires. Et l'explosion des fossiles, la diversité, c'est-à-dire les bêtes très variées, n'ont que, pour simplifier, 600 millions d'années. Avant 600 millions d'années, la vie existait. Mais c'était une vie, entre guillemets, simple, au point de vue, d'après les fossiles. Et puis ensuite, ça s'est complètement explosé, diversifié, vous avez tout ce que vous pouvez imaginer qui existe encore. Mais ce message est biaisé par la sélectivité de la fossilisation. C'est facile de fossiliser un coquillage, c'est beaucoup plus difficile de fossiliser une méduse. Donc peut-être que la fossilisation biaise cet arbre qui n'est fait qu'avec les fossiles. Alors, ce que nous allons chercher bientôt, c'est qu'est-ce qui se passe dans ces époques reculées où c'est par là qu'a dû naître la vie sur Terre, entre 3 et 4, sachant que les fossiles de cette époque sont rarissimes. Alors, les plus vieux fossiles qu'on connaisse sont les stromatolites. C'est des concrétions des calcaires déposées par des bactéries. Donc, ça, c'est sur le bord d'une route en Afrique du Sud. Là, vous avez une dame qui vous donne l'échelle. Et tout ce que vous voyez, ces couches, c'est déposé par des bactéries. Alors ici, il y a 3 milliards d'années, mais ça existe encore, les stromatolites. Par exemple, je vous montre ici les stromatolites actuels, qui sont des beaux constructions calcaires. C'est dans un lac, en Australie. Mais elles sont tout à fait vivantes. Et il y a, si vous voulez voir des stromatolites vivants, il n'y a pas besoin d'aller en Australie, c'est mauvais pour le bilan carbone. Vous allez par exemple dans des ruisseaux du Jura, ici, dans des ruisseaux du Tarn-et-Garonne, ici, vous avez des stromatolites bien vivants qui s'en donnent à cœur joie. Beaucoup de gens ne savent pas que les stromatolites, la plupart des gens pensent que les stromatolites, c'est vieux et qu'il y a un endroit, la baie des requins en Australie. C'est vieux, certes, mais ça vit encore, et il y en a partout. Ce que je vous ai montré en Australie, ce n'est pas la baie des requins, et que sur le web, vous tapez stromatolite Australie, 99% des réponses, c'est ça, parce que le web, Google et tout ça, c'est quand même le domaine de la pensée unique. Donc, il y a des stromatolites partout. Alors, je ne vous dis pas comment ça vit, mais il y a des bactéries qui vivent sur un support et ça dépose des couches calcaires. Et quand on les trouve, on m'en dit, il y avait de la vie. Alors, je vous montre des stromatolites fossiles. Je ne suis pas chauvin, mais quand même. Des stromatolites auvergnats. C'est juste au-dessus du château de Giscard à Chanona, là, comme ça. Ça fait des grosses boules. Vous avez des couches comme ça. Et j'y amenais tous les ans mes étudiants. Normalement, je devrais y aller dans 3 semaines. Mais à Lyon, on est confiné, on n'a pas le droit de plus faire 10 km, donc on n'ira pas. Donc, on aura une génération de professeurs mauvais, c'est parce qu'ils passent la grecque, ces étudiants-là, et ils n'auront pas vu. Et je leur ai dit, voilà, je vous présente les boules de Giscard. Alors, avant, ça faisait rire, les boules de Giscard, parce que tout le monde connaissait Giscard. Maintenant, s'il n'y avait plus mes étudiants Giscard, qui c'est Giscard? Alors, les stromatolites les plus vieux qu'on connaissait jusqu'en 2016, ils avaient 3,5 milliards d'années. Vous les avez ici en coupe, vous avez ici vu par-dessus, ils vivent en Australie, il y a 3,5 milliards d'années. Et j'aurais fait cette conférence il y a 5 ans, je vous dirais, c'est la plus vieille trace de stromatolites qu'on connaisse. Mais, en 2000, alors à côté de ces stromatolites, toujours de même âge, on avait d'autres roches sédimentaires, et en particulier des silex, ça c'est des bandes silex. Or les silex, c'est une roche très fine, c'est les, quasiment, avec les oxydes de fer, les seules roches capables de fossiliser des bactéries reconnaissables. Et dans ces silex australiens, qui sont juste à côté de ces stromatolites, on a trouvé en 2007, des choses, voici des lames minces, hein. Ces machins-là, vous avez l'échelle, là, ça fait 20 microns, 3 globules rouges. Ça, ce seraient des colonies de bactéries. Ça, c'est ce qu'on trouvait, ça, c'est l'interprétation. Il y avait donc des bactéries qui vivaient à côté de ces stromatolites, bactéries qui n'étaient pas stromatolites. Alors, c'est encore discuté, pas que ce soit des fossiles de bactéries, mais il y a des gens qui disent, oui, mais peut-être qu'elles sont venues après, ces bactéries, qu'elles ont envahi le silex. On ne va pas rentrer dans le détail. Alors, en août 2016, ça fait la une de Nature, on a trouvé des choses interprétables, comme des stromatolites, qui font quand même 200 millions d'années de plus. 200 millions d'années, c'est le début des dinosaures par rapport à nous. On dit, il y a 4 milliards, c'est pas grand-chose, mais c'est quand même beaucoup. Voilà ce que des gens ont trouvé, ça a été publié dans Nature, ils ont trouvé au Groenland, ce gros bloc. Alors, il n'y a pas l'échelle, parce qu'ils n'ont pas mis d'échelle, les vilains qui ont fait cette photo, c'est pas moi. On va, alors, il y a 3 niveaux, pas grands, où il y a des stromatolites. On va regarder ce carré. Là, il y a l'échelle. Et dans ce carré, vous voyez l'échelle, 4 cm, les spécialistes reconnaissent des stromatolites. C'est en 2016 qu'on a publié ça, 31 août 2016, les plus vieux fossiles qui étaient connus en 2016. Eh bien, on a fait mieux, puisqu'en mars 2017, il a été publié des photos, je vais vous montrer, de fossiles. Alors, l'âge est relativement incertain, parce que dater, c'est pas toujours facile. C'est un âge qui est compris entre 3,7 et 4,3 milliards d'années. On va dire 4, pour simplifier, on fait la moyenne. Qu'est-ce qu'on a trouvé dans des sédiments, dans des noms absolument imprononçables au Québec? On a trouvé des sédiments ferrugineux. Les sédiments ferrugineux, c'est avec les silex, les seules roches capables de fossiliser les bactéries. On a trouvé là-dedans des choses incroyables. Alors, la barre l'a fait 200 microns, c'est-à-dire 2 dixièmes de millimètre. Des tubes en oxyde de fer. Là, vous avez une coupe en oxyde ou en carbonate de fer qui sont interprétables soit comme des organismes, des micro-organismes, hein, c'est des microbes. Mais là encore, ça discute beaucoup, parce qu'il y a des gens qui disent, est-ce qu'on est sûr que des tubes, on ne pourrait pas faire des tubes de façon abiotique, minérale? Enfin, on en est là pour l'instant, 2000, donc j'ai mis la date, c'est 2000 combien, j'ai mis 2017, ça a 4 ans. Vous avez peut-être devant vous le plus vieux fossile morphologique connu à ce jour. Mais il y a tellement de gens qui cherchent qu'on va finir par en trouver d'autres. Alors, à côté des fossiles morphologiques, vous en avez montré plein. Les fossiles moléculaires, j'ai évoqué le sujet. Et là, les fossiles isotopiques. Alors, vous savez tous que la majorité des éléments chimiques, le carbone par exemple, ont plusieurs isotopes. Le carbone a 3 isotopes, le 12, très largement majoritaire, le 13, minoritaire, mais stable, et le 14, qui est très minoritaire et en plus radioactif. Eh bien, figurez-vous que des réactions chimiques comme la photosynthèse, là, vous avez ici une bactérie photosynthétique qui est représentée. La photosynthèse sépare les isotopes du carbone. On apprend à l'école, enfin moi j'avais appris à l'école que les isotopes avaient tous les mêmes propriétés physiques et chimiques, et séparer les isotopes, c'est très difficile. C'est ce qu'est en train d'essayer de faire l'Iranien pour faire une petite bombe. Ils veulent séparer l'uranium-238 et l'uranium-235, et ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal. eh bien, les êtres vivants y arrivent bien mieux. Vous avez ici une cellule bactérienne. Dans cette cellule bactérienne, il y a du gaz carbonique qui rentre, il y a de la lumière, il y a de l'eau qui rentre, il y a plein de réactions chimiques, je vous fais le détail des réactions, c'est la photosynthèse, et il sort de l'oxygène, c'est pas mon sujet d'aujourd'hui, et du sucre. Donc, il rentre du carbone sous forme de gaz carbonique, il sort du carbone sous forme de sucre, d'amidon, choses comme ça. Eh bien, toutes ces réactions chimiques enrichissent la matière organique qui sort, par rapport à ce qui rentre, en carbone léger, carbone 12. À la sortie, le sucre contient en proportion plus de carbone 12 que le gaz carbonique à l'entrée. Alors, il y a une unité pour mesurer cette composition isotopique que les géologues appellent le delta, je vais vous faire grâce de sa définition, mais ça enrichit, dans le cas de la photosynthèse ordinaire, celle qu'on a dans les platanes, ou dans les laitues, de 35 unités delta. Donc, si on part d'un carbone, gaz carbonique avec une unité delta, je ne sais pas, 100 par exemple, eh bien, le sucre sera 100 moins 35, c'est-à-dire 65. On enrichit en carbone 12, ce qui fait baisser le delta. Et ce qui est bien, c'est que ces variations isotopiques, en l'occurrence ici, l'enrichissement en carbone 12, ça se conserve même s'il y a eu cuisson. Par exemple, là, je vous montre des gens qui ont été cuits. C'est des fossiles, des squelettes qui ont été trouvés à Herculanum, qui ont été ensevelis par une nuée ardente. Donc, ils ont été bien cuits. Et malgré la cuisson, ils ont conservé le carbone qui reste là-dedans, a conservé la qualité isotopique qu'il avait au départ. Donc, c'est quelque chose qui est très stable et que les avatars géologiques, comme une cuisson par une éruption volcanique, ne modifient pas. Alors, voici ici un certain nombre de gisements. Vous avez l'âge ici. On va de 3,5 à 4,1 milliards d'années. Là, vous avez l'unité delta. Ça montre si les isotopes sont plus ou moins riches en carbone 12. En orange, vous avez des calcaires. Le calcaire, ça représente le gaz carbonique de l'époque. Et vous avez une certaine composition isotopique de ces calcaires, 3,5 milliards d'années en Australie, 3,8 au Groenland, 4 au Canada. Et en vert, vous avez le carbone réduit. C'était de la matière organique, c'était de la viande, des choses comme ça. Alors maintenant, les roches ont subi des avatars. C'est plus de la matière organique, encore un petit peu, mais ça a tellement chauffé que ça est devenu du graphite. Mais chauffé ne modifie pas les isotopes. Et dans les gisements que je vous ai indiqués, les trois les plus à gauche, il y a une différence de composition isotopique entre le graphite, la matière organique cuite, et les calcaires, au même endroit, qui représentent le gaz carbonique. Et là, je vous ai montré le fractionnement isotopique de quatre métabolismes actuels. La photosynthèse ordinaire des laitues, c'est ce fractionnement-là, à peu près d'une 35 unités delta. Mais il y a des métabolismes qui fractionnent un peu plus, d'autres qui fractionnent un peu moins. Et vous avez comment la vie aujourd'hui fractionne les isotopes. Et là, vous avez trois gisements où on a à la fois le gaz carbonique, représenté par les calcaires, et la matière organique qu'on trouve dans les graphites, et on voit qu'il y a ce fractionnement isotopique. Alors, il y a un gisement qui est plus vieux, où on a du graphite, dans des zircons, pauvre, enfin riche en carbone 12, mais on n'a pas de calcaire là. Je ne peux pas vous dire s'il y a un fractionnement, mais on a envie de dire que comme il est comme les autres, il doit y avoir un fractionnement, mais on n'a pas encore trouvé de calcaire représentant le gaz carbonique de l'époque. Donc, on a envie de dire, quand on voit ça, les métabolismes qui prenaient du gaz carbonique et qui faisaient de la matière organique existe depuis 4,1 milliards d'années. Et on aimerait bien aller voir avant, parce qu'il nous reste encore 400 millions d'années avant l'origine de la Terre. Et le problème, c'est qu'on n'a rien en cailloux avant. Donc là, le géologue se trouve impuissant, tant qu'on n'aura pas trouvé des cailloux plus vieux et des cailloux qui contiennent de la matière organique. Alors ça, c'est la façon dont les géologues abordent la vie ancienne. Les biologistes l'abordent aussi. Le premier qui a fait ça sérieusement, c'est Cuvier, donc au début du 19e siècle. Il regardait les organismes actuels. Maintenant, les biologistes ont fait des progrès. Non seulement ils regardent les organismes actuels, mais ils regardent les molécules comme l'ADN actuel ou subactuel. L'ADN, ça se fossilise, mais mal. Les plus vieux ADN fossiles qu'on a, c'est 2 millions d'années. Ce n'est pas bien avec ça qu'on pourra reconstituer des dinosaures. Déjà des mammouths, on ne sait pas. Mais rien qu'avec les os, on peut voir des choses. Par exemple, ici, vous avez un squelette de cheval et un squelette d'homme. Il ne faut pas être très malin pour voir qu'il y a beaucoup de points communs entre homme, homo sapiens, et le cheval, équus, je crois. Ça veut dire, a priori, disent les biologistes, quand il y a des gens qui se ressemblent, c'est que c'est des frères ou des cousins, etc. Homme et cheval sont des cousins qui dérivent d'ancêtres communs lointains, qui vivaient il y a des millions d'années. Alors, c'est pareil pour exemple, un homme et un carnivore, ici. Donc maintenant, grâce à la morphologie et grâce à l'ADN aux protéines, des êtres vivants actuels, ou morts il n'y a vraiment pas très longtemps, les biologistes peuvent faire un arbre généalogique. C'est connu grâce aux enquêtes policières. On trouve un bout d'ADN. On peut savoir si vous êtes le petit-fils de monsieur machin ou le petit-fils de monsieur truc. On peut même le faire pour les momies. On se demande Toutankhamon, par exemple, était-il le fils de la première ou de la deuxième épouse de son père, qui était, je ne sais plus quel pharaon. Donc, avec les protéines de l'ADN, on peut faire un arbre généalogique, mais on n'a que les êtres vivants actuels ou très récents. Toutankhamon n'est pas actuel, mais il est vraiment très récent. Et avec ça, les biologistes ont une méthode, qui est employée aussi par les policiers, pour faire un arbre généalogique ancien. Et voilà le résultat, un arbre généalogique, disons, publié dans les années 2000. Alors, tout ce qui est en bout de rameau, là, c'est des êtres vivants actuels qui vivent aujourd'hui. Il n'y a pas de notion de temps. Le haut, c'est ni plus jeune, ni plus bas, etc. Mais c'est tous les grands groupes d'êtres vivants qu'on avait diagnostiqués dans les années entre 2000 et 2010, à peu près, il y a au moins 15 ans. Et là, ce qui est intéressant de voir, c'est que l'immense majorité de la variété biologique de la biodiversité, ce sont des microbes. La biodiversité est représentée par les microbes. Les éléphants d'Afrique, les rhinocéros, ça fait pleurer Nicolas Hulot, mais c'est, au point de vue biodiversité, marginal. Pas pour nous, on a des yeux. Alors, les microbes, on ne les voit pas. Mais si on avait à la place des yeux des microscopes, eh bien, on les verrait. Dans cet arbre généalogique, les trois choses visible à l'œil nu, c'est les animaux, les végétaux et les champignons, pour simplifier. C'est une petite branchette de rien du tout. Le gros de la biodiversité, ce sont des microbes. Et non seulement le gros de la biodiversité des microbes, mais avec ces histoires d'ADN, on peut classer les êtres vivants actuels en trois catégories. Les premiers, on va prendre l'ordre alphabétique, on va l'appeler les archéas. On appelait archée, parce que quand on les a découvertes, on pensait que c'était très vieux, alors c'est pas vieux du tout, ça existe encore, mais c'est pas les premiers apparus. Les deuxièmes, on appelait ça les eubactéries, c'est les bactéries, on va dire, ordinaires. Et les troisièmes, toujours dans l'alphabétique, c'est les eucaryotes, ce sont les cellules qui ont un noyau. Là, c'est les cellules qui n'ont pas de noyau. Et dans ces eucaryotes, il y a trois petits rameaux, les animaux, les plantes et les champignons, qui sont devenus macroscopiques, c'est-à-dire que nos yeux voient. Tout le reste, on ne le voit pas. Et les biologistes ont inventé le concept de LUCA, ça veut dire Last Universal Common Ancestor. C'est l'ancêtre commun, d'après l'ADN, à tous les êtres vivants dont on a séquencé l'ADN aujourd'hui. Il suffit qu'on en trouve un autre demain qui ne marche pas et ça change. Mais pour l'instant, tous les êtres vivants dont on a séquencé l'ADN, on n'a pas tout séquencé, ont un ancêtre commun qu'on appelle Lucas. Ce n'est pas le plus vieux. Il y avait de la vie avant. Mais la vie avant avait des branches qui n'ont pas donné d'être vivant découvert à ce jour. Mais il faut savoir qu'en nombre d'espèces, on n'a pas séquencé un pour un million des espèces. Si vous prenez rien que les insectes pour le macroscopique, il y a 50 000 espèces de charançons. Il y a 40 000 espèces de vertébrés, poissons compris, et 50 000 espèces de charançons. Et on a envie de dire que c'est les vertébrés qui dominent le monde. Les charançons sont un succès évolutif beaucoup plus grand que les vertébrés. Alors, le monsieur qui a dessiné cet arbre il y a 15 ans, mettons, il n'avait pas encore compris qu'on était un petit groupe de rien du tout, on, je parle des animaux, des plantes et des champignons, il nous a mis en haut, comme si on était à part. Il n'a pas encore fait sa révolution copernicienne, monsieur s'imagine qu'on est encore le centre du monde. Alors voilà un autre arbre phylogénétique un peu plus moderne. Pareil, l'extrémité de chaque rameau, c'est des êtres vivants actuels dont on a séquencé l'ADN. On revoit les trois groupes, les archées, les bactéries et les eucaryotes. Et là, le monsieur qui a dessiné ça n'a pas fait d'anthropocentrisme. Les animaux, les champignons et les végétaux sont à pas une place particulière. Ils sont un peu n'importe où. Voilà. Une parenthèse. Vous connaissez les magasins où on achète à manger. Il y a la boucherie où on achète à manger de la viande. Il y a les marchands de légumes où on achète des plantes. Et souvent, les champignons, on les achète chez le marchand de légumes. C'est une erreur. Les champignons sont, génétiquement parlant, phylogénétiquement parlant, beaucoup plus près des animaux que des plantes. Un vegan devrait hésiter à manger des champignons parce que c'est quasiment des animaux. Alors là, c'est un truc que j'ai dessiné pour mes étudiants où il y a la notion de temps. Ça, c'est en bas, c'est vieux. Ça, c'est aujourd'hui. Lucas devait se trouver par là. Il y avait de la vie avant. Puis une diversification. Et là, vous avez les milliards d'espèces d'aujourd'hui. Avec les trois groupes, les bactéries, les archées. Et là, j'ai fait du nombrilisme. J'ai développé les eucaryotes. Parce que, voilà, on est dedans. Nous, on est un tétrapode. Parce qu'on a quatre pattes. Et j'ai quand même fait très attention que les tétrapodes, nous, on ne soit pas une place particulière. C'est ni plus haut que le reste, parce qu'on est contemporain de tout ça, mais je ne l'ai pas mis à l'extrême droite, ni à l'extrême gauche, ni même au milieu. Il y en a quatre d'un côté, six de l'autre. Une place quelconque. On n'a rien de plus, ni rien de moins non plus, que les autres êtres vivants. On a effectivement un cerveau qui est plus gros. Mais au point de vue queue, par exemple, nous sommes des rares mammifères qui ont perdu notre queue. Alors ça, c'est une solution artistique pour les Lyonnais, c'est au musée des Confluences. Quand il sera ouvert, allez voir, ils ont fait un arbre généalogique phylogénétique de la vie à trois dimensions, c'est très joli, bien éclairé. Au milieu, il y a Lucas, et puis il y a toutes ces branches qui divergent. Le temps, là-dedans, serait représenté par des sphères concentriques. Tout ce qui est à la surface, c'est vie aujourd'hui. Tout ce qui est là, c'est que ça vivait il y a, mettons, 2 milliards d'années, etc. Et j'ai rajouté, pour faire joli, des petits dessins de bactéries, d'archées ou d'eucaryotes. Donc, nous, ce qu'il faut qu'on aille voir, c'est ce qui se passe avant Lucas. Alors, on serait dans une salle, je m'arrêterai 2 minutes en disant, est-ce que vous avez des questions? Si vous avez des questions, notez-les dans un coin et vous les poserez à la fin, je pense que ça sera possible. Alors, avant, que peut faire le géologue? Il n'a plus de soucis, il n'a plus rien. Eh bien, il peut se servir de son cervelle, de sa cervelle, et dire, théoriquement, qu'est-ce qu'il a fallu pour que la vie apparaisse? La vie, c'est fait de molécules, des glucides, des protéines et tout ça. Les quatre éléments chimiques les plus abondants de la vie, c'est CHON. Avec ces atomes CHON, on fait plein de petites molécules qu'on trouve partout. H2O, CH4, etc. Donc ces petites molécules qui sont des constituants simples, on les trouve partout. Il devait y en avoir dans la Terre primitive, hein, personne n'est allé la voir pour l'analyser. Et c'est avec ces petites molécules qu'a priori, il a fallu arriver jusqu'à la première cellule vivante. Alors avec ces petites molécules, il a fallu faire des moyennes molécules. Vous connaissez tous les noms, les acides aminés, les bases azotées, les sucres. Comment on est passé de ces petites molécules à des moyennes molécules? Ensuite, il faut passer des moyennes aux grosses, qu'on appelle les macromolécules. Là encore, on connaît les noms, les protéines, les acides nucléiques, les glucides à grosses molécules, comme l'amidon, la cellulose. Puis avec ces macromolécules, il a fallu faire la première cellule, ça c'est l'étape 3. Souvent les gens s'arrêtent là, on a fait une cellule, on est tranquille. Ben non, si vous faites la première cellule vivante, il faut qu'elle croisse et qu'elle multiplie. Si vous faites une cellule vivante, mais qu'elle meurt de faim parce qu'elle n'a rien à manger, eh bien, la vie n'est pas née, elle est née pendant, je ne sais pas, la demi-heure de vie de la première cellule, et puis après. Donc, une fois qu'on a fait les cellules, il faut qu'elles croissent et qu'elles multiplient. Et on va regarder les apports de la géologie sur ces quatre étapes. Fabriquer les moyennes molécules, fabriquer les macromolécules, fabriquer les premières cellules, croître et multiplier. On retombe sur la Bible qu'on a vue au début. Alors attention, un problème de définition. Souvent, j'ai parlé de matière organique. Alors, c'est une habitude de langage en France, qui date du 19e siècle. Mais matière organique ne veut pas du tout dire que ça vient d'un organisme vivant. C'est malheureux comme terme, mais il est consacré par l'usage. Matière organique, matière avec du carbone réduit. Cette matière avec du carbone réduit, du carbone, on va dire, peut être soit d'origine biologique, un biftec, soit d'origine parfaitement non biologique. Quand vous faites prenez des petites molécules ou vous faites des moyennes molécules, avant d'être vivant, ben vous n'êtes pas vivant. Donc matière organique ne veut pas dire biologique. Attention à ce problème de vocabulaire. Donc la première étape capitale, c'est comment faire les molécules moyennes et monomères avec les petites qu'on trouve partout dans l'univers. Les petites, c'est par exemple du méthane, du dihydrogène, du dioxyde de carbone, de l'ammoniac, de l'eau. Avec ça, il faut faire, par exemple, un acide aminé. Ici, c'est l'alanine. Sachant qu'en vert, c'est le carbone, etc. Comment faire ça? Alors, il y a intellectuellement trois sites possibles. Quant à l'origine de ces moyennes molécules, des monomères, sur la Terre. Si vous en imaginez un quatrième, il faut le dire. Alors, le premier qui était proposé en 1953, j'avais un an, c'est donc pas de toute première fraîcheur, c'était que ça se fabriquait dans l'atmosphère, avec des éclairs et tout ça. C'est la célèbre expérience de Miller. En numéro 2, deuxième possibilité, ce qui reporte un peu le problème, c'est qu'elles arrivent toutes faites de l'espace. Bon, ça reporte le problème, mais on a trouvé un moyen de les faire dans l'espace, on y viendra, c'est les rayons ionisants, les rayons cosmiques sur des glaces, ça peut faire ça. La troisième solution, c'est fabriquer dans l'océan primitif ou sur les continents primitifs, quand vous avez un certain nombre de réactions chimiques, qu'on étudiera, qui peuvent faire ces moyennes molécules comme des acides aminés, tout ça. Donc, il y a trois lieux possibles qu'on va examiner. On va en examiner deux. Parce que celui-là, très rapidement, je ne vous dis pas pourquoi, je n'ai pas le temps, ça fait 40 ans qu'il est abandonné, sauf peut-être dans l'éducation nationale, chez les journalistes, qui sont quand même deux des professions en France qui ont le plus de retard intellectuel. Donc, on abandonne l'atmosphère. Deuxième solution, elles arrivent toutes faites de l'espace. Est-ce que c'est possible, ce truc-là? Alors, quelle est la composition chimique de l'univers? C'est très simple, pour une galaxie, c'est une galaxie, là, vous la mélangez bien, vous la touillez, et vous analysez ses atomes. Alors, pour faire ça, on fait un spectre global d'une galaxie, et vous trouvez, prenez à peu près 1 milliard d'atomes, après avoir bien mélangé, et sur ce milliard d'atomes, vous voyez qu'il y a, on va dire, je simplifie, 900 millions, excusez-moi, atomes d'hydrogène. En nombre d'atomes d'hydrogène, c'est 9 atomes sur 10. L'hélium, c'est un peu moins de 1 sur 10, 88 millions pour l'hélium. Alors l'hélium, c'est mis en marron, ainsi que le néon qui est plus bas, parce que, rappelez-vous, vos cours de chimie, c'est les gaz qui sont à l'extrême droite de la classification périodique des éléments, qui n'ont aucune propriété chimique, on appelle ça les gaz rares, les gaz inertes, donc ils ne peuvent pas faire de molécules. Donc ils sont hors course, c'est pas avec ça qu'on fera des molécules. Chimiquement, ça marche pas. Donc je règle l'hélium, je règle le néon. Quel est le deuxième élément après l'hydrogène? C'est l'oxygène, qui fait que 800 000 sur 1 milliard. Le troisième, c'est le carbone, 300 000 sur 1 milliard. Le quatrième, c'est l'azote, 100 000 sur 1 milliard. Vous voyez que si j'enlève l'hélium, qui ne réagit pas, les quatre atomes réactifs les plus abondants de l'univers, c'est H, O, C et N. C'est les atomes de la vie. Les atomes qui font les cailloux, je pense à Thierry qui doit m'écouter, le silicium, le magnésium, le fer et tout ça, ils existent bien sûr, mais beaucoup moins. Dans l'univers, il y a plus de matière organique que de cailloux. Mon âme de géologue est un peu meurtrie, je préférais qu'il y ait plus de cailloux que de biftec, mais bon. Donc, faire des molécules organiques, il n'y a pas de problème d'atomes, on les a. Alors, là, les atomes dans l'ordre de classement, et avec ça, donc, prenez oxygène, hydrogène, et vous faites des molécules organiques. A priori, les molécules organiques, dans l'univers, c'est la troisième molécule en ordre d'abondance. C'est une famille, hein, c'est pas une molécule. La première, c'est H2, avec de l'hydrogène H, vous faites H2, qui est la molécule numéro 1. La molécule numéro 2, c'est H2O. H2O. Et les molécules numéro 3, c'est toutes les molécules carbonées, CH4 et azotées éventuellement, ou CHON, c'est la matière organique. Les cailloux, on appelle les silicates, ça vient qu'en quatrième position. Les silicates variés, c'est les molécules au quatrième. Et le fer métallique, c'est les molécules numéro 5. Le noyau de la Terre est en fer, il y en a beaucoup, mais c'est pour l'univers numéro 5. Alors, théoriquement, il doit y avoir beaucoup de molécules organiques dans l'univers, puisqu'on a l'hydrogène, le carbone, et tout. Est-ce qu'il y en a? Eh bien, avec les radiotélescopes qui observent en ondes millimétriques et centimétriques, on peut identifier les molécules carbonées, pas trop compliquées. Disons jusqu'en C12 à peu près, ou un peu plus. Et voici la liste des molécules carbonées qu'on a trouvées dans l'univers au jour d'aujourd'hui. Il y en a. En théorie, il y en a. Et en vrai, il y en a. Alors, j'en ai encadré quelques-unes. J'ai encadré l'hydrogène, deux atomes. HCN, le poison des espions, l'acide cyanhydrique. Trois atomes. Quatre atomes, l'ammoniac. Cinq atomes, le méthane, la plus simple des molécules organiques. J'en ai entouré une ici en vert, c'est CH2CH2OH, c'est l'alcool éthylique. Je ne sais pas si Dieu existe, mais s'il existe, il n'a pas pu interdire l'alcool, vu la quantité d'alcool éthylique qu'il a mis dans l'univers. Moïse, qui allait étudier et écouter les commandements de Dieu, il n'a pas du tout comprendre, il s'est trompé. Dieu aime l'alcool, c'est évident. Il en a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et là, j'ai encadré une molécule qui est avec un point d'interrogation, parce qu'on est à la limite de la détectabilité. C'est le plus simple des acides aminés, la glycine. Mais on est vraiment, le rapport signal sur bruit est très faible. Donc, des molécules organiques, il y en a. Alors, il y a des molécules organiques. Dans l'espace, il fait froid, puisqu'il y a de l'eau. L'eau doit être sous forme de glace. Souvent, il y a de la vapeur et de la glace. Si on a des petites molécules comme de l'eau, etc., et de la glace, si on bombarde ça par des rayons ultraviolets, par des rayons cosmiques, vous faites des moyennes molécules. Ça, c'est de la théorie. Et c'était publié pour la science, c'est pas de la science moderne. Pour la science, c'est de la revue de vulgarisation. Il y a 22 ans, on sait qu'on peut faire des molécules moyennes en irradiant un mélange de glace d'eau, de glace d'ammoniac, de glace de méthane, etc. Donc, en théorie, dans un système solaire en formation, ici, vous avez le système solaire en formation. Alors, c'est une vraie photo. Alors, en ondes millimétriques, mais c'est un vrai système stellaire en train de se former. Les planètes vont se faire avec des poussières qui sont dans cette zone-là. Et le soleil, l'étoile centrale, va se faire avec des gaz qui sont dans cette zone-là. Ici, il fait chaud. Ici, il fait tiède. Et ici, il fait froid. Sachant que, comme composition chimique, on a ça. L'hydrogène, l'eau, des molécules organiques, des silicates, du fer. Et l'hélium ne compte pas parce qu'il ne fait pas de molécules. Ici, il fait chaud, mettons 600 degrés. À 600 degrés, vous prenez tout ça, qu'est-ce qui est solide? Il n'y a que le fer et les silicates. Donc ici, vous avez des poussières de fer et de silicates, tout le reste est gazeux. Donc un gaz fait d'hydrogène et d'hélium, et d'eau, vapeur d'eau, et de vapeur organique. Ici, il fait froid, très froid, mettons moins 240 degrés. Tout est solide, aussi bien le fer et le silicate, mais aussi l'eau, le méthane, les molécules organiques. Il n'y a que l'hydrogène et l'hélium qui sont encore gazeux. Donc vous avez des poussières avec pas mal, a priori, théoriquement, de molécules organiques dans de l'hydrogène. Et puis si au milieu il fait tiède, le fer et les silicates sont solides et ils réagissent un petit peu avec la vapeur d'eau et s'hydratent légèrement. Pour les géologues, ça peut faire des argiles, des serpentines, des amphiboles. Par contre, l'hydrogène, l'hélium, la matière organique sont encore gazeux. Donc, on peut faire des calculs, des modèles complexes pour savoir, dans le système solaire en formation, il y a 4 milliards et demi d'années, près du futur soleil, les poussières qui sont rassemblées pour donner des planètes, c'est 25% de fer, 65% de cailloux secs. Là, les poussières, c'est la même chose, sachant que les cailloux sont un petit peu hydratés. Par contre, en périphérie lointaine, là, il manque une flèche, c'est là. Il y a toujours le rapport fer 1, caillou 3. C'est 1, 3, 25, 75. Mais il y a beaucoup plus de glace avec un S. J'ai souligné le S. Parce que vous avez 60% des poussières qui sont faites de glace d'eau, de glace de méthane, de molécules organiques, mélangées avec 30% de poussière de cailloux et 10% de poussière de fer. Ça, c'est la théorie. Donc, théoriquement, dans le système solaire externe, il doit y avoir beaucoup de molécules organiques. Par contre, dans le système solaire interne, il doit y avoir beaucoup, beaucoup moins. Là où nous habitons dans le système solaire interne. Et puis entre les deux, la zone intermédiaire, c'est à peu près au niveau de la ceinture d'astéroïdes, ben, c'est entre les deux. Ça, c'est la théorie. Mais maintenant, on va voir si c'est vrai. On va aller visiter le système solaire moyen et le système solaire lointain pour voir s'il y a un petit peu de matière organique, et s'il y a beaucoup de matière organique. Ici, il suffit d'aller sur la Lune, par exemple, pour voir qu'il n'y en a pas. Alors, allons chercher des morceaux d'astéroïdes. Ou, théoriquement, il doit y avoir de la matière organique. Y en a-t-il ? Alors, dans un an ou deux, je pourrais répondre de façon beaucoup plus détaillée, parce qu'il y a deux missions qui se sont posées sur des astéroïdes. Une mission japonaise qui est revenue il y a à peu près un mois, avec quelques grammes d'astéroïdes, et une mission américaine qui est encore sur le chemin du retour, qui va se revenir dans 2 ans. Et là, ils en ont beaucoup plus, je crois qu'ils en ont 500 grammes. Donc, on va pouvoir analyser, on a commencé, mais il n'y a aucun résultat qui est publié, des vrais astéroïdes récupérés sur place. Sinon, heureusement, les astéroïdes, ils viennent à nous. Voici un astéroïde qui a été photographié en 2005 par une mission japonaise, il s'appelle Hayabusa. La mission japonaise, c'est Hayabusa 1. L'astéroïde s'appelle Itokawa. Alors, les astéroïdes, c'est tout cassé, c'est tout boursouflé. La plupart des astéroïdes, ils passent leur temps à se rentrer dedans. Il y a 2 astéroïdes qui se rentrent dedans. Ça les casse en 1000 morceaux. Et en général, les 1000 morceaux, plutôt 998 morceaux sur 1000, se ressoudent et ça refait un astéroïde de deuxième génération. Et ça ressemble vraiment à un tas de cailloux mal consolidé, mal aggloméré. Mais il y a quelques pourcents de ces astéroïdes qui partent. La collision, il y a des débris qui partent. Et ces débris qui partent, on les connaît très bien. C'est les météorites. Donc, quand vous avez des météorites, je pourrais vous en chercher, j'en ai plein dans mon armoire, là, eh bien, c'est des morceaux d'astéroïdes. Et il y a quelques 1 à 2% des météorites, qu'on appelle les chondrites carbonées, qui contiennent jusqu'à 5% de carbone. Alors, voici une photo de chondrite carbonée, qui est derrière moi. Et ici, une photo d'une tranche d'une chondrite carbonée. Alors, celle-là, elle est à l'école normale, équipe usée supérieure. Alors, on va analyser le carbone de ces moldes qu'on trouve, qui peut faire jusqu'à 5%, c'est-à-dire vous avez 1 kilo de météorite carbonée, ça fait quand même 50 grammes, oui, c'est ça, ou 5 grammes. Enfin, 1% d'un kilo, vous savez ce que c'est, 1% d'un kilo, ça fait 10 grammes, donc ça fait 50 grammes de matière organique. Alors, il y a la majorité de ce carbone est sous forme de très grosses molécules insolubles. On ne peut pas les dissoudre ni dans l'eau, ni dans aucun solvant organique. Il y a une petite proportion qui est constituée de molécules solubles, alors soit dans l'eau, soit dans d'autres solvants. Ça, c'est beaucoup plus facile à analyser. Analyser de la matière organique insoluble, ce n'est pas facile. Alors, il faut d'abord l'extraire, cette matière organique. Donc, vous avez un morceau de chondrite carbonée, vous l'attaquez par différents acides et vous récupérez une espèce de sauce dans lequel il y a de la matière organique. Alors voilà à quoi ressemblent ces molécules organiques qu'on trouve dans ces chondrites, les grosses molécules insolubles. Alors c'est des molécules qui peuvent être jusqu'à 100 carbones. Les chimistes apprécieront. Mais par exemple, ça doit ressembler à ça. Vous avez des molécules cycliques, plein de cycles. Il y a un peu de soufre, un peu de ceci, un peu de cela. Il y a un peu d'oxygène, il y a de l'azote, il y a tout, voilà. Et pour comparer, je vous ai mis par exemple une molécule organique biologique bien terrestre, la chlorophylle. Voici une molécule de chlorophylle et voici une molécule qu'on trouve, alors ça c'est terrestre, qu'on trouve dans les chondrites carbonées. Alors là, ça doit être Orgueil, je pense. Orgueil, c'est le nom d'un village du Tarn-et-Garonne sur lequel est tombée une chondrite carbonée il y a un certain temps déjà. Et puis, il y a les composés solubles. Alors ça, c'est beaucoup plus facile à analyser. Et voici sous forme de camembert les différents composés solubles qu'on trouve dans les chondrites carbonées. Alors, on ne va pas tout dire, il y en a 2 là que j'ai soulignés en vert, parce qu'ils ont un intérêt biologique évident. On trouve des acides aminés Et on trouve des hétérocycles azotés, des bases azotées, guanine, cytosine, les fameux CGTA. On les trouve là-dedans. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Les acides aminés, il y en a beaucoup plus. Et puis, il y a plein d'autres molécules carbonées, dont des alcools. Je dis que Dieu aimait l'alcool, c'est une évidence. Alors, par exemple, ici, c'est le plus gros fragment de météorite jamais trouvé sur Terre. Il fait 60 tonnes, c'est un seul tenant. Il s'est trouvé en Namibie au début du XXe siècle. Alors, ce n'est pas une chondrite carbonée, mais si c'était une chondrite carbonée, elle contiendrait, sur ces 60 tonnes, environ 600 kilos de matière organique. Et dans ces 600 kilos de matière organique, il y aurait 400 grammes d'hydrocarbures, 300 grammes d'acides aminés, 300 grammes, c'est 5 œufs à peu près, 60 grammes d'alcool, c'est pour ça que j'ai mis un verre de punch ici, et 7 grammes de base azotée, adénine, guanine, etc. Ça, c'est pour le système solaire, disons moyen, ceinture des astéroïdes. Et puis, il doit y avoir encore plus de matière organique au loin. Alors, le loin, c'est difficilement accessible. C'est la ceinture de Kuiper, qui est quelque part par là, ou le nuage de Oort, qui tourne autour du Soleil, qui est comme ça. Mais heureusement, il y a des perturbations orbitales qui font que certains de ces objets lointains, qui sont à 60% constitués de glace, eh bien, de temps en temps, au lieu de tourner en rond autour du Soleil, ils se mettent à tourner de façon très elliptique. Ils passent près du Soleil. Quand ils passent près du Soleil, la glace se sublime, ça fait une queue et ça s'appelle une comète. Une comète, ça vient du système solaire externe. Alors, une comète, comment ça marche? Je vous dis, c'est un bloc de glace, à peu près 60% de glace et 40% d'autre chose. Quand c'est au frigidaire là-bas qui fait moins 240, moins 250, pas de problème. Si ça passe près du Soleil, la glace s'évapore, se sublime, et le vent solaire défléchit la vapeur à l'arrière, ça fait une queue à l'arrière de la comète. Alors beaucoup de gens, quand ils voient une comète, s'imaginent que la queue indique le mouvement. Pas du tout, la queue n'indique pas le mouvement, elle indique l'opposé du Soleil. Et ça, c'est connu depuis les Grecs. Les Grecs avaient remarqué que la queue des comètes était toujours à l'opposé du Soleil. Et dans la queue, alors là, j'ai une photo que j'ai prise il y a quelques mois, parce qu'au mois de juillet, j'espère que vous l'avez tous vu, vers 4 à 5 heures du matin à Lyon, vers le 10, 14, 15 juillet, quand il faisait beau, moi j'ouvrais la fenêtre de ma chambre tous les matins, vous reconnaissez la tour de la Part-Dieu là, et je voyais dans les lueurs du soleil qui se levait, la comète Neowise, que j'ai photographiée bêtement avec mon appareil, je serais en salle, je dirais, qui n'a pas vu la comète Neowise en juillet? Parce que c'était quand même un beau spectacle. Mais à ce moment-là, on parlait de « ouais, le confinement est fini, on va pouvoir faire la fête ». On parlait de je ne sais pas quoi, on ne parlait pas de comète. Et là, rien que vous voyez, le soleil il va se lever par là, hein, on ne sait pas trop où il est là. Et la queue est à l'opposé du soleil. Les Grecs l'avaient remarqué. Alors, depuis une trentaine d'années, on s'est analysé avec des études spectrales la composition chimique des queues de comète. Alors, il y a plein de choses, dont des molécules contenant du carbone, que j'ai mis ici en rouge. Le problème, c'est qu'avec l'étude spectrale, on ne peut pas analyser des molécules, on va dire, de plus de 15-20 atomes. Après, on n'y arrive pas avec la technologie actuelle. Donc, on aura beaucoup de mal là-dedans pour trouver s'il y a des molécules complexes. Mais enfin, quand même, on peut y arriver. Là, c'est la comète Lovejoy, qui est passée, je ne sais plus quand, en 2015, que j'appelle la comète Ponche. Parce que dans cette comète, avec des études spectrales, on a trouvé dedans un sucre et de l'alcool éthylique. Sucre plus alcool éthylique, ça me fait penser au punch. Alors, pour analyser finement une comète, il faut le spectre, ça ne suffit pas, il faut ramasser les morceaux. Alors, la première fois que ça a été fait en 2004. Il y a une sonde américaine qui a traversé la queue d'une comète, qui a sorti une espèce d'attrape poussière. Et cette attrape-poussière est revenue sur Terre en 2006. Et on espérait que cette attrape-poussière avait récupéré des grains de poussière pour voir ce qu'il y avait dedans. Alors, cette attrape-poussière, c'est une espèce de glu avec de la colle et tout ça. Et il y a des grains de comète, des poussières qui sont arrivées sur ce machin gélatineux, qui ont explosé. Et tous les petits grains noirs que vous voyez là sont des morceaux de la poussière cométaire qui est rentrée et qui a explosé en arrivant sur la trappe poussière. Ces petits grains font à peu près 7 microns, c'est la taille d'un globule rouge. Et c'est ce truc-là qui a été analysé, alors au départ de façon non destructrice, puis ensuite de façon destructrice. Alors, vous ne lisez pas, mais dans ces grains de poussière, hein, les gens ont trouvé des molécules organiques, des cétones, des molécules aromatiques. Ils ont trouvé plein de molécules organiques, dont il y a un grain de poussière qui était très riche en alcool. C'est pour ça que j'ai mis une bouteille de rhum ici. Quand je vous dis que Dieu aime l'alcool éthylique, c'est évident. Et en 2009, les analyses étaient de plus en plus poussées, on a trouvé dans ces grains de poussière de la glucine. C'est le plus simple des acides aminés. On n'a pas trouvé mieux pour l'instant, mais bon. Et puis, il y a bien sûr la comète Churyumov-Gerasimenko qui a été explorée par Rosetta. C'est la seule sonde d'exploration spatiale où l'Europe a fait mieux que les Américains. Il y a une mission où on a fait mieux, c'est l'exploration de la comète Rosetta. Il y a une sonde qui s'est mise en orbite autour de cette comète, qui est restée plus de 2 ans en orbite, et qui a envoyé un petit robot se poser dessus, petit robot qui était censé faire des analyses sur place. Le problème, c'est que le robot s'est posé, mais très mal posé. Il n'a pas pu faire ses analyses. Alors, le petit robot est arrivé d'en haut, il devait se poser là, mais il devait s'accrocher, il avait des grappins, tout ça, pour s'accrocher. Comme c'est pas gros, hein, ça fait 7, 8, 7 kilomètres dans sa plus grande dimension, la gravité à la surface est un 1/10 millième de gravité terrestre. Si vous vous asseyez sur une comète, ne donnez surtout pas un coup de poing sur la table. Vous êtes tout de suite éjecté. Vous ne pesez rien. Alors, il est arrivé très lentement, je crois que c'était 3 km/h, parce que la gravité est quasi nulle. Il ne s'est pas accroché. Il a rebondi sans se casser une première fois. Il a rebondi sans se casser une deuxième fois. Il a rebondi sans se casser une troisième fois. Il s'est coincé, catastrophe, sous un gros rocher. Pourquoi je dis catastrophe? Parce que sous un gros rocher, on est à l'ombre, et qu'il avait des batteries chargeables par des panneaux solaires. Les panneaux solaires n'ont pas fourni d'électricité. Au bout de 24 heures, les batteries sont devenues vides. Et toutes les analyses qu'il devait faire, mais il n'a pas pu les faire. Il avait de quoi faire un forage aussi, petit forage, pour ramasser de la poussière. Mais comme il s'est posé de guingois, le forage était à l'horizontale, il ne touchait même pas par terre. Mais pendant son trajet, là, il survolait la comète pas vite, hein, quelques 1-2 km/h, et à une centaine de mètres d'altitude. Il a pu analyser les gaz qui s'échappaient de la surface de la comète. Alors voilà des spectres. Vous ne regardez pas, mais il avait plein de raies spectrales le 12 novembre 2014. Et avec ça, les scientifiques ont réussi à transformer ces histoires de raies en molécules. Alors, c'était que des petites molécules. Là, pareil, il n'était pas prévu d'analyser des molécules gazeuses. Les grosses molécules, c'est pas gazeux. Donc, voilà ce qu'il a trouvé. Alors, il a trouvé de l'eau. 80% c'est de l'eau. Mais il a trouvé un certain nombre de molécules carbonées et volatiles. Donc, c'est des petites. Et en 2016, depuis l'orbiteur qui tourne autour de la comète, ils ont identifié pour la glycine, le plus simple des acides aminés. Donc, il y a plein de molécules organiques sur les comètes, dont le plus simple acide aminé. Mais là, c'est des petites molécules volatiles. Les grosses molécules, il ne pouvait pas les analyser. Il aurait dû pouvoir s'il s'était posé. Mais comme il ne s'est pas bien posé, comme il s'est mal posé, on n'a pas pu analyser les grosses molécules. Alors, une autre expérience qui a été faite sur l'orbiteur qui tournait autour de la comète, eh bien, il avait une espèce de plaque qui rattrapait les poussières. Alors là, c'est une image animée. Vous voyez des grains de poussière qui volent. Et là, c'est des grains de poussière qui sont écrasés sur une plaque. Pas d'argent, d'ailleurs. Et il a pu, avec un petit balayette, ramasser de cette poussière et les analyser. Mais il a pu les analyser que vis-à-vis de leur composition atomique. Il a dit, il y a 30% de carbone, 30% d'oxygène. Il n'était pas prévu qu'il analyse les molécules. L'analyseur de molécules, il était sur le robot qui était mal posé. Mais voilà le résultat. C'est que ces poussières, en nombre d'atomes, ont entre 2 et 8 fois plus d'atomes de carbone que d'atomes de silicium. C'est plus du goudron, c'est des grosses molécules, hein, c'est des poussières. C'est plus de la suie que du caillou. Et alors voilà, en camembert, pour donner le nombre d'atomes, il y a à peu près 45% de la masse des poussières, c'est des molécules organiques, des grosses molécules organiques, mais on ne sait pas les. Et 55%, c'est des composés minéraux, du genre olivine, pyroxène et tout ça. Et ça, c'est en nombre d'atomes. Il y a des macromolécules, les comètes, mais on ne sait pas lesquelles. C'est terrible. Donc, vous voyez que la Terre a reçu, reçoit encore des molécules organiques par les comètes. Qu'une comète nous tombe dessus, ça arrive de temps en temps, ou une météorite, elle amène des matières organiques. Attention, ce qu'elle amène, ce n'est pas la vie, c'est des molécules organiques. Il y a des gens qui disent que c'est la panspermie. Panspermie, ça vient du grec pan, tout, et sperme, le germe. C'est une pluie, non pas de spermatozoïdes, de spores ou de graines, ce sont des molécules qui arrivent de l'espace, pas la vie. On serait dans une salle. On sait pas. Je dirais, on fait une petite pause, on attend les questions, on va continuer. Troisième solution, donc les molécules peuvent être faites dans l'atmosphère, on n'y croit plus, peuvent arriver toutes faites de l'espace. Elles arrivent toutes faites de l'espace. On ne sait pas bien si c'est les bonnes, mais il en arrive. Et elles peuvent être faites sur place, sur Terre, par des réactions chimiques. Et il y a un contexte qui est bien pour faire ça, c'est quand vous avez des roches bien chaudes qui touchent de l'eau et du gaz carbonique. Par exemple, une coulée de lave qui arrive dans la mer, c'est très bien. Alors, un peu de chimie, si vous avez de l'eau, et le minéral le plus fréquent de la Terre, l'olivine, alors en surface, ce n'est pas le plus fréquent, mais en volume, c'est le plus fréquent, je vous dis. L'olivine, ça veut dire un cristal d'olivine, contient du fer sous forme de plus, il y a des chimistes, vous savez que le fer peut exister sous forme divalente ou trivalente, le fer réduit, c'est FeO. Si vous avez du FeO, il y en a dans l'olivine, et de l'eau, ça nous donne du Fe2O3, qu'on appelle la magnétite, des roches bizarres, comme la serpentine, et de l'hydrogène. Eh bien, il y a une autre action. Donc, l'eau sur l'olivine, si c'est, mettons, plus de 70 degrés, ça fait de l'hydrogène, H2, qui vient de l'eau. Il y a une autre action qui se fait. Si vous avez de l'hydrogène, et si vous avez du gaz carbonique, eh bien, une réaction chimique tout à fait spontanée. Il n'y a pas de vie qui fait ça. C'est une réaction qu'on appelle, en France, Sabatier, dans le reste du monde, Fischer-Stropf. Ils ont fait à peu près les mêmes travaux ensemble. Sabatier, c'est celui par exemple, qui a donné le nom à l'université scientifique de Toulouse, c'est l'université Paul Sabatier. De l'hydrogène plus du gaz carbonique, ça donne du méthane plus de l'eau. Alors vous avez un petit coin de Turquie, bonjour Thierry, où de l'eau souterraine riche en CO2 réagit avec de l'olivine, ça donne de la serpentine, tout ce que là où on marche c'est de la serpentine, et de l'hydrogène. Et comme cette eau qui circule dans le sous-sol de la Turquie est riche en gaz carbonique, eh bien, cette gaz carbonique réagit avec l'hydrogène et ça donne du méthane qui brûle. Vous claquez une allumette et ça fait des flammes. Alors, c'était un coin sacré pour les anciens, évidemment, Dieu, le temple, il y avait des temples, etc. Alors, le contexte géologique, vous êtes quelque part en Turquie, ici. Vous êtes au contact entre, pour les géologues, une nappe d'ophélite. Il y a plein d'olivines là-dedans. Là, vous avez plein de calcaire et de dolomie. C'est séparé par une faille de chevauchement, pour ceux qui connaissent. Donc, vous avez des eaux riches en gaz carbonique, qui viennent des calcaires, qui réagissent avec de l'olivine qu'on trouve là-dedans. Et ça fait, donc, ces dégagements de méthane. Alors, si on les analyse, on trouve là-dedans du méthane, de l'hydrogène, du léthane, c'est de la chiche, et des hydrocarbures plus complexes, très minoritaires, ça va jusqu'en C6. Donc, vous avez sous vos pieds, là, une organosynthèse, où vous fabriquez à l'aide d'eau, de gaz carbonique et d'olivine, des molécules jusqu'en C6. Je rappelle que le glucose a comme formule C6H12O6. Donc peut-être que là-dedans, si vous reniflez bien, vous sentirez une légère odeur de caramel. Peut-être. Alors, ces sources terrestres, c'est pas là où c'est le plus fréquent sur Terre, où il y a de l'eau chaude qui est en contact avec de l'olivine. C'est au niveau des océans, et en particulier sous les, mettons, on va dire, la moitié des fonds océaniques, des dorsales, où il n'y a pas de croûte, où vous avez le manteau terrestre, péridotitique, qui est au contact directement avec l'eau de mer. Et là, vous avez une source hydrothermale au fond de la mer, où il sort dissous dans l'eau, mais si vous l'analysez, il sort de l'hydrogène, 45%, du gaz carbonique, 43%. Donc tout n'a pas réagi, mais il y en a un petit peu qui a réagi, puisqu'il sort également du méthane. Que 6%, mais c'est déjà ça. Eh bien, en théorie, toujours au laboratoire, si avec de l'hydrogène, du gaz carbonique, vous mettez de l'azote, par exemple de l'ammoniaque, comme ça, Vous allez et puis des bons catalyseurs, si le pH est basique ou pas acide, il ne faut pas qu'il soit acide, vous pouvez faire soit des acides aminés, soit des bases azotées, avec des réactions de type Strecker, c'est des chimistes du début du XXe siècle. Donc, en théorie, au niveau des sources hydrothermales, il y a tout ce qu'il faut pour faire, par exemple, des acides aminés, des bases azotées. Au laboratoire, ça se fait. Là, c'est un papier. Les gens, avec un, pour les chimistes, un gradient redox de fer, etc., vous faites là-dedans des acides aminés à partir de gaz carbonique, d'hydrogène, des choses comme ça, si vous avez un gradient de fer, un gradient d'hydroxyde de fer là-dedans. Eh bien, en 2018, il y a une publication qui est sortie. Cette synthèse de molécules prébiotiques intéressantes comme les acides aminés, qui était une possibilité théorique, qui était une possibilité de laboratoire, c'est devenu une réalité observée dans la nature. Donc, on sort du domaine de la théorie pour le voir en vrai. Alors, c'est toujours dans ces sources hydrothermales en milieu péridotitique, quand il n'y a pas de croûte, à Lost City, des carottes ont été faites. Ils ont prélevé une carotte de au moins 200 mètres et un petit morceau de cette carotte à 200 mètres, ils ont prélevé à peu près à 173 mètres sous la surface, donc c'est pas en surface, hein, a été analysé finement avec un luxe de détails. Alors, la roche qu'ils ont ramassée, c'est de la serpentine. Voici un échantillon de serpentine comme on trouve partout, par exemple dans les monts du Lyonnais. Ça, c'est la mâche de serpentine. Regardez au microscope. Et si vous regardez, il y a des argiles là-dedans. Et c'est dans les niveaux d'argile ou de serpentine qu'on trouve des choses. Alors, avec le synchrotron à Grenoble, on a éclairé les endroits où il y a un mélange de serpentine et de saponite, c'est une argile, avec un faisceau extrêmement étroit d'ultraviolet très lointain, très petite longueur d'onde. Pourquoi ? Parce qu'on sait que certains composés organiques sont fluorescents avec cette longueur d'onde-là. Et là, vous avez une courbe de fluorescence. Vous avez éclairé avec des ultraviolets à 275 nanomètres de longueur d'onde et il y a une fluorescence vers 400 nanomètres et les spécialistes reconnaîtront un certain nombre de pics, un là, dont celui-là, qui est remarquable, parce que cette bande de fluorescence à 358 nanomètres, c'est la bande de fluorescence des acides aminés cycliques, en particulier du tryptophane. Dans ces serpentines à 173 mètres de profondeur, il y a des acides aminés. Alors, ils ont réussi à trouver où là, il y a les fibres, les feuillets de serpentine ou d'argile, et c'est dans des espèces de pores qu'il y a des acides aminés. Il y a d'autres molécules organiques, mais il y a les acides aminés. Donc, il semble vraiment qu'il y a synthèse abiotique, hein, il n'y a pas de vie là-dedans, d'acides aminés au niveau des dorsales, quand de l'eau chaude, contenant du CO2 et d'azote, est en contact avec de l'urine si le pH n'est pas acide. Ça marche. Donc, c'était l'étape 1, c'était la plus longue. Hein. Où peut-on faire ces molécules moyennes, acides aminés, bases azotées, etc. Mais il y a deux endroits où on est sûr que ça se fasse maintenant. C'est l'espace. Et c'est les sources hydrothermales, qu'elles soient sous-marines comme ci, ou éventuellement en surface aérienne. Tant que le milieu n'est pas acide. Donc, l'espace, les sources hydrothermales, ou les deux à la fois. Abondance de biens ne nuit pas. Alors, on va aller beaucoup plus vite, parce que là, j'ai presque rien à dire pour l'étape 2, l'étape 3. Quand on a ces petites molécules, comme les acides aminés, il faut les polymériser, par exemple, pour faire des protéines. On prend, là, c'est pour faire de l'ADN, une base azotée, du désoxyribose, c'est un petit sucre, l'acide phosphorique, et avec ça, on fait la fameuse double hélice. Comment peut-on faire ça? Alors ça, le problème, c'est que c'est pas un problème de, c'est un problème de chimiste, c'est pas un problème de géologue. Alors le géologue a quand même son petit mot à dire, mais pas grand chose, alors, je vais le dire vite, c'est que pour faire ces réactions, on prend des moyennes molécules, on les assemble pour en faire des grosses, certains sulfures, comme la pyrite, certains phyllosilicates, comme les argiles, les serpentines, à cause de la structure cristalline de la surface, permettent cette polymérisation. Si le pH est neutre ou un tout petit peu basique, il ne faut pas que ça soit acide. Par exemple, ça, c'est une expérience de laboratoire qui a été publiée en 2017. À la surface simplement de la silice, là, ils ont mis les constituants de l'ARN, de l'adénine, de l'acide phosphorique, etc. Et à 70 degrés à la surface de la silice, ils ont polymérisé ça pour faire l'adénosine monophosphate, qui est un des précurseurs de l'ADN. En laboratoire, ça marche. Il n'y a plus qu'à vérifier si ça marche en vrai dans la nature. Là, ça sera pour les années qui viennent. Alors, où trouve-t-on fréquemment argile et serpentine? C'est ces feuillets qui sont bien à pH neutre. Ben, les sites a priori les plus favorables, c'est les sources hydrothermales profondes, il y a. C'est les sources hydrothermales à l'air libre, si elles ne sont pas acides. Et puis, c'est bêtement les lagunes côtières. Vous avez une mare avec de l'argile, etc., un peu de carbonate, c'est basique. Si vous mettez là-dedans des acides aminés, ils peuvent se polymériser. Le problème, c'est que là, les acides aminés, on les fait. Là, ils peuvent tomber tout seuls de l'espace. Là, on ne les fait pas, il faut attendre qu'ils tombent aussi. Donc, vous voyez que les macromolécules, le géologue, il n'a pas grand-chose à dire, mais il dit, si j'ai de l'argile, de la serpentine ou des sulfures, et si j'ai les molécules moyennes en jaune, alors je fais des molécules bleu clair. Ensuite, il faut passer des macromolécules, protéines, acides nucléiques, aux premières cellules vivantes. Alors là, c'est autre chose. C'est l'étape 3. Passer des macromolécules, la double hélice de l'ADN, une protéine, à la plus simple des cellules. Ça fait 100 ans que les biologistes essayent, et ça fait 100 ans qu'ils n'y arrivent pas. Il faut dire que le problème n'est pas simple. Alors, il y a plein de on peut faire des dos du dessin, pour prendre ces molécules, les agencer, etc. C'est joli. Alors, il y a tout longtemps, je vous montre une expérience qui date de 1922, 99 ans déjà, où un certain Oparin, qui était russe et qui est devenu soviétique en 1922, qui a mis dedans des macromolécules, il a vu que ça s'assemblait un peu tout seul pour faire des membranes et des petits sacs. Ça n'a rien de vivant, mais c'est, voilà, ce sont des choses. Alors, quelqu'un, ça c'est un Américain, 70, qui a refait un peu la même chose, parce que les soviétiques, on n'allait quand même pas les croire, hein, c'était des communistes. Alors, il a vu, ça marche. Mais on est très loin de la cellule. Alors, il y a vraiment beaucoup de gens qui cherchent, hein, ça c'est une publication comme ça, c'était la... comment avec des acides nucléiques, des acides gras, faire des membranes et des cellules. En 2020, bien que beaucoup, beaucoup cherchent, il reste encore beaucoup de boulot à faire pour trouver. Mais là, le géologue, il peut que regarder, essayer de comprendre, et moi, quand je lis ces publications, j'avoue que j'y comprends pas grand-chose, parce que je suis pas biochimiste. Et la dernière étape, on va en reparler, il me reste un petit quart d'heure, ça va. Quand on a une cellule qui est faite, il commence à dire, maintenant une cellule va se diviser en deux pour continuer. Et pour se diviser en deux, il faut qu'elle mange, qu'elle grandisse, il faut qu'elle ait de l'énergie. Donc, qui c'est qui parle là? Qui c'est qui parle?
Je l'ai coupé, t'inquiète pas.
Sauf si c'est toi, les autres n'ont pas le droit de parler. Alors, croître et multiplier, comme j'ai dit, ce n'est pas le tout de naître. Encore faut-il croître et multiplier. Un couple de lapins, s'il a assez à manger, peut croître et multiplier et envahir complètement l'Australie. Alors, il y a deux solutions pour croître et multiplier. Première solution, que nous faisons en moyenne 3 fois par jour, c'est manger. Quand je dis multiplier, c'est pas forcément multiplier le nombre d'individus, hein, ça ne produit pas 3 fois par jour, mais nos cellules de peau de serre, on fait des globules de tout le temps. Nos cellules passent leur temps à se multiplier pour compenser les morts cellulaires. Il faut manger. Et manger, on absorbe des molécules toutes faites. Par exemple, on mange des protéines, on mange des glucides, on mange des lipides. Et ça permet de grandir. Et donc, on grandit. Et puis, pour vivre, il faut avoir de l'énergie. Quand on dégrade ces grosses molécules, eh ben ça fournit de l'énergie. C'est la solution choisie par la vache, par beaucoup d'animaux. On mange. Ça permet de croître et de multiplier. La deuxième solution, c'est ce que fait l'herbe. L'herbe, elle ne mange pas. Elle absorbe l'eau. Elle absorbe le CO2. Elle absorbe des sels minéraux. Elle prend de l'énergie venue de l'extérieur, c'est l'énergie solaire dans le cas de l'herbe, c'est la photosynthèse, et avec CO2, H2O, sels minéraux et énergie, elle fait ses macromolécules. Ça consomme beaucoup d'énergie. Nous, on ne sait pas faire. Mais les plantes et beaucoup de bactéries savent le faire. Faire les grosses molécules avec les petites, mais il faut une source d'énergie. Alors, comment manger avant que la vie soit abondante? Nous, c'est facile de manger. On va chez le marchand. Mais comment faire pour manger avant que la vie soit abondante? Il y a deux solutions. Vous êtes la première cellule. Vous avez faim. Il n'y a rien d'autre à manger. Il n'y a pas d'autre cellule, vous êtes la première. Qu'est-ce que vous faites? Par exemple, vous vous mettez près d'une source hydrothermale. Les sources hydrothermales fabriquent des molécules, on a vu lesquelles. Elles fabriquent des acides aminés. Donc vous vous mettez près d'une source hydrothermale, vous attendez qu'un acide aminé sorte. Ça n'a peut-être pas le même goût qu'un bon tourneau de Rossini, mais c'est des acides aminés. Et en mettant près d'une source hydrothermale, vous pouvez manger des molécules abiotiques. Première solution. Deuxième solution, vous mettez au bord d'une mare et vous attendez qu'une météorite ou une comète ou des poussières extraterrestres tombent. Elles contiennent des molécules organiques, abiotiques. Quand elles tombent dans la mare, elles vont s'échapper et vous mangez les molécules qui s'échappent. Deux solutions. Ça, c'est la solution vache, manger. La solution plante, c'est prendre l'eau, le sel minéraux, le gaz carbonique et de l'énergie pour faire vos propres molécules à vous. Alors, c'est la photosynthèse classique. Alors, dans la nature actuelle, il y a les plantes et les bactéries, certaines bactéries qui savent faire cela. Les animaux, champignons par exemple, ne savent pas, les archées ne savent pas. Cette photosynthèse classique est daterait, alors conditionnelle, au moins de 3,5 milliards d'années. C'est une vieille histoire. Donc, vous prenez de l'énergie, vous prenez du CO2, vous prenez de l'eau, vous faites avec l'énergie des grosses molécules et il y a un petit déchet qui s'échappe, qu'on appelle l'oxygène. Alors, il y a une autre sorte de photosynthèse qui est très peu connue, mais qui existe encore. C'est une photosynthèse, donc il faut de l'énergie lumineuse, du CO2, de l'eau. Il n'y a que des bactéries qui savent faire ça. Mais il faut aussi du fer de plus. Et si vous prenez de l'eau, du CO2, de l'énergie et du fer de plus, vous faites des macromolécules et du fer 3+. Ce n'est pas de l'hydrogène, de l'oxygène qui se dégage, c'est du fer 3+. Pour les spécialistes, on appelle ça la photoferrotrophie. Alors, ça existe encore dans la nature actuelle, mais c'est très rare. Mais probablement que c'était très fréquent avant. Et un des sous-produits, c'est la magnétite. C'est ce qu'on appelle l'oxyde ferrique, Fe3 ou 4. Alors que dans la photosynthèse classique, le sous-produit, c'est l'oxygène. Et si je dis que ça devait être abondant, c'est que parmi les plus vieilles roches sédimentaires terrestres, là, c'est au Groenland, 3,8 milliards d'années, vous avez des roches sédimentaires qu'on appelle des fers rubanés. Alors, ceux-là sont très vieux parce que vous avez des couches d'oxyde de fer diverses et l'oxyde de fer en question, c'est de la magnétite. Là, c'est un morceau que j'ai mis un aimant à côté, il tient. Donc, probablement qu'un certain nombre, je parle aux géologues, des plus vieux gisements de fer, par exemple ceux-là qui datent de 3,8 milliards d'années au Groenland, sont dus à de la photoferrotrophie. Donc, il y a la photosynthèse, qu'elle soit atypique ou typique. Et il y a autre chose qui existe beaucoup sur Terre et que les gens connaissent très mal, en particulier l'éducation nationale et les journalistes. Et c'est très dommage parce que c'est certainement majeur. C'est faire, donc, toujours pareil, il faut faire des grosses molécules avec des petites. Les petites, c'est de l'eau, du gaz carbonique et de l'énergie. Et avec ça, vous faites les grosses molécules. Mais l'énergie, ici, ce n'est pas de la lumière. C'est des réactions chimiques diverses et variées. Par exemple, un corps A plus un corps B donne un corps C, un corps D, et de l'énergie, une réaction exothermique. Alors, sur les trois groupes d'êtres vivants qui existent dans le monde, les bactéries, les archées et les eucaryotes, les eucaryotes, c'est nous, les platanes, etc., il n'y a que les eucaryotes qui ne savent pas faire ça, mais les archées et les bactéries savent très bien le faire. Les eucaryotes sont des handicapés au point de vue énergétique. Alors, certaines de ces réactions chimiques qui fournissent de l'énergie utilisent de l'oxygène. Par exemple, au fond de la mer, quand les fonds sont basaltiques, vous avez du gaz sulfuré qui sort, il y a de l'hydrogène dissous dans la mer, les poissons, ça respire très bien, avec des branchies. Eh bien, du gaz sulfuré plus de l'oxygène, ça donne de l'acide sulfurique et de l'énergie. Et des bactéries utilisent cette énergie, et puis ensuite, il y a plein de vers. Et plein de babettes qui mangent ces bactéries, il y a plein d'écosystèmes. Mais la source d'énergie, c'est l'oxydation d'un gaz, par exemple, l'hydrogène sulfuré. Alors, beaucoup de mauvais journalistes, excusez le pléonasme, disent que ce type d'écosystème est totalement indépendant de la lumière du soleil. Puis évidemment, on est à 3000 mètres de fond, fond de la mer. On n'est pas du tout indépendant de la lumière du soleil, parce qu'on utilise de l'oxygène. Et pourquoi est-ce qu'il y a de l'oxygène? Parce que 3000 mètres plus haut, il y a la photosynthèse. Donc, ces réactions-là, qui marchent très bien maintenant, ne pouvaient pas marcher, disons, avant 2,5 milliards d'années, parce qu'il n'y a pas d'oxygène dans l'atmosphère. Donc ça ne marche pas. Alors, il y a d'autres micro-organismes qui font des réactions chimiques sans oxygène, dont une qu'on connaît très bien, on l'a déjà vu. Prenez de l'hydrogène, prenez du CO2, ça donne du méthane, de l'eau et de l'énergie. Réaction type Sabatier ou Fischer-Tropsch. Ça se fait très bien sans vie. Mais comme ça fournit une énergie, la vie est très opportuniste. Quand il y a de l'énergie, il y a toujours des microbes pour utiliser cette énergie pour leurs besoins. Il suffit qu'il y ait de l'hydrogène et du gaz carbonique, ça donne de l'énergie, des microbes utilisent. C'est ce qui est, par exemple, ce qui se passe dans l'estomac des ruminants, dans l'estomac des termites, dans la vase des marécages. Vous avez des fermentations. Ces fermentations font de l'hydrogène. Dans l'estomac d'une vache, donc de l'hydrogène qui se dégage. Puis il y a du gaz carbonique aussi. Puisqu'il y a du gaz carbonique et de l'hydrogène, il y a de l'énergie potentielle et il y a des bactéries qui l'utilisent. Ça fait du méthane et c'est pour ça que les vaches rotent du méthane et que les gaz, les ruminants sont très mauvais pour l'effet de serre. Là encore, je vais parler un peu de religion. À un moment, paraît-il, Dieu a interdit le cochon à Moïse. Ça a été repris par Mahomet. Dieu savait que le méthane était un gaz à effet de serre. En interdisant le cochon, ça a été remplacé par les moutons et les chèvres qui sont des ruminants. Dieu n'a certainement pas voulu favoriser l'effet de serre. Il le savait que l'effet de serre, ce n'était pas bon. Donc, ce n'est pas Dieu qui a interdit le cochon, c'est Moïse qui a mal compris ce que lui a dicté Dieu. Passons. Donc, la vie peut utiliser des réactions de ce type-là pour se fournir en énergie, croître et multiplier. Or, au niveau des sources thermales, on l'a vu, il y a synthèse des abiotiques de l'hydrogène. Et comme dans l'estomac des vaches, il y a des micro-organismes qui utilisent cet hydrogène pour faire cette énergie et pour faire leur synthèse. Donc, regardez au niveau des sources hydrothermales profondes ou superficielles, si le milieu n'est pas acide, dans un environnement riche en olivine ou en pyroxène. Donc, au même endroit, au même moment, qu'est-ce que vous avez? Vous avez organosynthèse de molécules moyennes, les acides aminés par exemple, qui peuvent servir à fabriquer des macromolécules, si elles se polymérisent, ou à nourrir des cellules qui viennent d'apparaître. Une cellule qui vient d'apparaître, à la fin, un acide aminé sort, elle le bouffe. Au niveau de ces sources hydrothermales, vous avez des minéraux, comme les serpentines, les argiles, qui permettent de polymériser ces molécules moyennes pour en faire des macromolécules. Et vous avez réaction biochimique, si c'est en bas, biophotochimique, si c'est à la lumière, en particulier la photo, qui peut fournir l'énergie à des cellules qui viennent d'apparaître. Donc vous voyez qu'au niveau des sources hydrothermales, vous avez tout ce qu'il faut pour que la vie naisse et se développe. Est-ce comme cela que c'est arrivé? Rendez-vous dans 20 ans, on aura, j'espère, progressé. Je vais conclure. Déjà, quand vous verrez de la serpentine avec de l'argile, et il y en a près de Lyon, celle-là elle vient des monts du Lyonnais, et il y en a beaucoup en ville parce qu'il y a plein de devantures de magasins qui sont faits avec des roches vertes, on appelle ça le vert d'Italie, tout ça qui sont des serpentines. Bien, regardez-la avec respect, cette serpentine. C'est peut-être un équivalent moderne, alors celle-là, elle n'a que 400 millions d'années, du nid où est née notre arrière-grand-mère à tous. Vous avez le lit dans lequel est née votre arrière-grand-mère. Alors, comment est née la vie? Pendant le premier milliard d'années de la Terre, des molécules organiques simples, dites prébiotiques, acides aminés, bases azotées, existaient en abondance, venues de l'espace et fabriquées au fond des océans ou dans les eaux thermales, hydrothermales des continents. Abondance d'origine possible ne nuit pas. La polymérisation, fabrication des macromolécules et la fourniture d'énergie semblent plus probables au fond des océans ou des sources continentales que dans les mares côtières. Mares côtières, il faut attendre qu'une météorite tombe pour amener ces acides aminés, ce n'est pas facile. L'énergie, on l'a, mais les molécules, on ne les a pas bien. Alors maintenant, on attend que les biologistes et les biochimistes nous disent comment on est passé des molécules organiques complexes, je dirais que le géologue sait faire, à la plus simple des cellules. Là, il y a un trou. Et j'ai mis rendez-vous dans quelques années si les biologistes travaillent bien. Alors, ça va être ma dernière ou mon avant-dernière diapo. On peut se demander, raisonnablement, Si ce qui est arrivé sur Terre, on voit les grandes lignes avec un énorme point d'interrogation dans le milieu de la chaîne, ailleurs dans le système solaire. Est-ce que ce qui s'est passé sur Terre s'est passé ailleurs dans le système solaire? Je vous rappelle qu'il y a actuellement dans le système solaire beaucoup d'océans profonds, liquides. Quand je dis profond, c'est entre 50 et 500 km, recouverts de banquises, par exemple de 10 à 200 km d'épaisseur. Et qu'au moins deux de ces océans profonds, liquides, sous banquises, sont au contact de silicates, Europe et Encelade. Et au moins un de ces satellites contient des molécules organiques complexes, puisque sur Encelade, il y a des geysers qui sortent, on a trouvé des molécules jusqu'à 15 carbones. On n'a pas pu trouver plus loin parce que les instruments n'étaient pas prévus pour. Rappelons que de l'eau a coulé sur Mars et qu'il existe encore de l'eau liquide sur Mars, mais dans le sous-sol profond. Donc, dans tous ces endroits-là, il est tout à fait possible, regardez, il y a un poisson qui passe, là, que de la vie soit née aussi. Je ne sais pas s'il y a des nés, mais tous les espoirs sont permis. Et merci de votre attention. Et je rends la parole à Georges pour, si c'est possible et s'il y a des questions, essayer d'y répondre.